Vous écoutez l'épisode 161 du podcast Mes trucs de prof sur les messages clairs, dans lequel nous parlons de compétences communicationnelles et de gestion de conflits. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des messages clairs, une pratique de gestion de conflit que j'ai utilisée dans mes classes il y a quelques années. Et figurez-vous que je suis retombée sur un script d'épisode que j'avais probablement préparé en 2019 et que je n'avais jamais enregistré. Donc la façon dont je vais vous en parler aujourd'hui n'aura pas grand-chose à voir avec la façon dont je vous en aurais parlé en 2019 parce que j'ai évolué, j'ai changé. Mais comme la semaine dernière, j'ai donné une formation sur les compétences communicationnelles à des enseignants et des enseignantes spécialisées, je me suis sentie inspirée pour enregistrer enfin cet épisode. Donc le message clair, c'est un outil ou une démarche préventive, on pourrait dire ça comme ça, de gestion de conflit qui va permettre de résoudre des situations de conflit sans violence sur la base d'une communication claire et explicite. Donc elle va permettre de lever des non-dits avant que les conflits ne dégénèrent. C'est une démarche qui s'appuie sur l'approche de la CNV, la communication non violente, et sur les travaux du docteur Marshall Rosenberg, dont je vous parle dans l'épisode 98. Donc l'idée des messages clairs, c'est de proposer une démarche en 5 étapes dont les élèves pourront assez facilement s'approprier pour faire part de ce qui les dérange, de ce qu'ils ressentent et de pouvoir formuler une demande claire à leurs camarades. C'est une sorte de protocole de communication, donc je préviens que je veux faire un message clair, je dis ce qu'il s'est passé, j'exprime mes ressentis et je formule une demande à mon camarade et ensuite je demande un feedback pour m'assurer que l'autre ait bien compris ma demande. Donc j'y reviendrai un petit peu plus loin dans l'épisode sur ce protocole, mais vraiment c'est une démarche qui va permettre de développer des compétences communicationnelles, de développer les compétences du coup des élèves parce qu'elle va les aider premièrement à savoir écouter, ensuite à savoir exprimer leurs émotions, leurs besoins, à poser leurs limites, à formuler des demandes à leurs camarades. Et petit à petit, eh bien, les élèves sauront mieux appréhender les situations de communication et communiquer plus efficacement pour pouvoir éviter que les conflits ne s'enveniment. Il ne s'agit donc absolument pas d'éviter les conflits, mais vraiment de savoir résoudre des situations difficiles, de savoir dire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de dire pour éviter justement que ces situations ne s'enveniment. Et donc ce que je viens de vous citer là, le fait d'écouter, le fait de pouvoir exprimer ses besoins, ses émotions, le fait de pouvoir aussi repérer le contexte d'une situation de communication, donc parce que parfois il va falloir savoir si c'est le moment de faire un message clair ou si c'est pas approprié, eh bien tout ça là, il s'agit des 3 compétences à développer pour pouvoir développer une communication constructive, c'est-à-dire une communication qui fasse avancer tout le monde, où on puisse se sortir de certaines situations un petit peu difficiles et qu'on puisse avancer en maintenant un lien. Il s'agit là donc de compétences psychosociales, hein, dans leur aspect social, la capacité à savoir communiquer efficacement, à communiquer de façon constructive, à développer des relations avec les autres pour pouvoir coopérer, s'entraider, mais aussi à savoir résoudre des difficultés en osant demander de l'aide, en s'affirmant, en étant capable de résoudre des conflits et de trouver vraiment des solutions qui soient positives pour tout le monde. Et ce qu'on appelle une communication constructive, c'est vraiment l'idée de savoir adopter des comportements qui vont faciliter les échanges avec les autres, même dans des situations difficiles. Et c'est ce que permettent les messages clairs. Ça permet vraiment de créer un cadre de communication qui va être propice à l'écoute, aux échanges, là, dans l'idée de non pas éviter les désaccords, mais de pouvoir ensuite s'en servir pour trouver une solution, grandir ensemble. Et voilà pourquoi je trouve que cette pratique des messages clairs est vraiment intéressante à développer, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le message clair, en fait, ça va être un premier pas aussi pour développer ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est l'attitude de communication qui va nous permettre de pouvoir nous affirmer sans écraser les autres. C'est-à-dire que c'est une attitude qui va s'opposer à deux autres attitudes que sont la passivité et l'agressivité. Et l'idée, ben, en étant assertif ou assertive, c'est de pouvoir permettre de dire des choses difficiles pour faire respecter ses droits, pour faire respecter nos besoins, tout en étant respectueux des droits, des besoins, des ressentis des autres. Et donc, c'est vraiment cette attitude assertive qui va favoriser des échanges constructifs. Sauf que, parfois, ben, dire les choses, dire nos besoins, dire ce qu'on ressent, dire non, dire stop, c'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui n'osent pas le faire, et il y en a d'autres qui osent trop le faire sans trop écouter les autres. Et pour en revenir en tout cas au message clair, cette démarche qui est un peu protocolaire, parce qu'il y a vraiment des étapes bien précises et déterminées à suivre, ben justement, le fait qu'il y ait un protocole fixe, ça va permettre de cadrer tout ça. Ça va permettre à la fois de créer un espace un peu safe, un peu sécurisant, où il sera possible pour l'élève de formuler ça, de formuler son besoin, de formuler ce qui le dérange, de formuler ce qu'il ressent. Et justement, le fait qu'elle apporte des formulations, ça va être aidant, et ça va aussi favoriser l'écoute de l'autre. Le fait qu'il y ait un cadre et qu'on sache qu'on est dans le cadre du message clair, tout de suite, le fait, parce qu'au début du message clair, on annonce « je veux te faire un message clair », et bien tout de suite, ça interrompt un peu ce qui se passe pour pouvoir se dire « ok, là, on va me dire quelque chose, va falloir que j'écoute ». L'autre intérêt de cette démarche, c'est qu'elle permet aussi à l'adulte, donc à nous enseignants, de ne pas être trop interventionniste ou solutionniste. Ça, je vous en parlais dans l'épisode 108 sur la gestion de conflits, où je recevais Émilie Henrault de Qui fait l'école, et où on faisait un point là-dessus, où on disait qu'on a parfois tendance à se focaliser sur la recherche de solutions, la sanction, en se disant que c'est à nous de trouver la solution, et du coup, ce qui nous empêche d'être dans l'écoute, et parfois qui ne nous permet pas de laisser les élèves aussi s'exprimer et trouver leur propre solution. Et donc, dans les situations de gestion de conflits, on a tendance parfois à ne pas suffisamment écouter et à penser immédiatement sanction, réparation. On veut que les choses soient vite résolues, on ne prend pas forcément le temps, parce qu'en plus on n'a pas ce temps pour tout écouter tout le temps, etc. Et du coup, on n'arrive pas toujours à aider les élèves à communiquer et à trouver leur propre solution. Alors que dans la vraie vie, on n'a pas toujours un prof après pour réguler nos conflits et pour apporter des sanctions et des solutions en fonction de qui a tort et qui a raison. On a besoin justement de développer cette compétence relationnelle et communicationnelle pour pouvoir faire état de ce qui se passe, faire état de ce qu'on ressent et pouvoir co-construire des solutions avec les autres. Et donc le message clair, en fait, rend les élèves plus autonomes et leur redonne du pouvoir d'agir. Ce qui fait que la solution à une situation inconfortable ou à un désaccord n'est plus forcément l'intervention d'un adulte, ça devient petit à petit d'abord la communication et le fait de pouvoir dire ce qu'il se passe et voir avec l'autre. Il m'est arrivé plusieurs fois, lorsqu'un élève ou une élève venait me solliciter pour résoudre une difficulté, de lui demander: est-ce que tu lui as dit que ce n'était pas possible? Est-ce que tu lui as dit que tu n'étais pas d'accord? Ou est-ce que tu lui as dit non? Est-ce que tu lui as dit stop? Est-ce que tu lui as demandé d'arrêter? Et où les élèves, assez régulièrement, répondaient de manière un peu étonnée, non. Comme si c'était pas forcément un réflexe d'exprimer son désaccord, d'exprimer ses limites, et qui venait directement voir l'enseignant ou l'adulte pour résoudre cette situation-là. Et dans ces cas-là, je les renvoyais, essaye, va lui dire non, va lui dire que ça te plaît pas, va lui dire que tu veux pas, et reviens me voir si ça fonctionne pas. Et en fait, ça c'est vraiment une compétence communicationnelle qui, même chez nous, parfois adultes, hein, il n'y a qu'à voir au sein d'une équipe, c'est pas toujours aisé de pouvoir dire non, dire stop, on n'y pense pas forcément, et on se laisse parfois empiéter, on se laisse parfois déborder, en tout cas sur nos limites, parce qu'on n'a pas appris à dire non, à dire stop, tout simplement, et sans que ce soit un souci. Je vous disais donc que la démarche du message clair se décompose en 5 étapes. Et pour les personnes qui connaissent un peu la CNV ou qui ont écouté l'épisode 98, vous remarquerez qu'on y retrouve la démarche OSBD de la CNV. OSBD pour observation, sentiment, besoin, demande. Je vous renvoie donc à l'épisode 98 si vous voulez avoir plus de précision. Et la première étape du message clair, c'est le fait de dire à l'autre personne qu'on veut lui faire un message clair. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet de poser le cadre du message clair et le contexte. Ça permet de marquer une pause aussi, et puis ça laisse du temps pour se mettre à l'écart. Souvent, c'est intéressant de pouvoir aller à un endroit précis pour faire le message clair. Ça permet d'instaurer les conditions d'écoute. Donc si je suis un élève, je connais le protocole du message clair, on me dit qu'on veut me faire un message clair, donc je change de posture. Je sais que l'issue du message clair n'est pas une remontrance, mais que l'objectif c'est d'améliorer la situation et qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire. Donc dans ma classe, quand on voulait se faire un message clair, cela nécessitait de se lever et d'aller à l'endroit prévu pour cela, où les étapes d'ailleurs du message clair étaient affichées. Et ça permet aussi de régler ces différends à l'abri des oreilles indiscrètes et d'éviter l'effet de groupe ou que les autres entendent ce qui se dit. Ça se passe vraiment entre les deux personnes qui sont en train de se parler. Le fait de faire un message clair, ça implique aussi un engagement d'écoute. Quand quelqu'un me fait un message clair, je m'engage à le laisser dérouler tout son message clair sans l'interrompre jusqu'à la demande. Même si je ne suis pas d'accord, j'écoute l'autre et après j'aurai le droit de m'exprimer. Et l'autre, en fait, on sait qu'il exprime un besoin et qu'il est important de savoir l'écouter. Donc cette introduction de « je veux te faire un message clair », elle invite à tout ça, à l'engagement d'écouter, à attirer l'écoute de l'autre et à poser le cadre de ce protocole. Ensuite, la seconde étape du message clair, ça correspond au O de l'OSBD, à l'observation, c'est-à-dire qu'on va évoquer les faits, dire ce qu'il s'est passé. Et pour cela, le protocole propose une formulation qui commence par « quand tu par exemple, quand tu agites ton crayon, quand tu prends quelque chose dans ma trousse sans me demander, ou quand tu me parles alors que j'essaye de travailler, etc. » pour décrire ce qu'il se passe. Ça permet d'être concis et de cibler le fait pour ne pas trop s'étendre et pour pouvoir être bref. Par exemple, donc, quand tu prends mon stylo sans me demander, ou bien quand tu me demandes, quand tu me donnes un coup de coude, ou quand tu me parles pendant que je réfléchis, etc. Et ensuite, ça permet de formuler la troisième étape qui est l'effet sur soi, ce que ça me fait, comment je me sens. Et donc pour cela, l'insiste proposé, c'est de dire « et je me sens » ou « je me suis sentie » ou bien « ça me ». Par exemple, « ça me dérange »,« ça m'agace », voilà. Et ensuite, on enchaîne sur l'étape 4 qui est la demande et qui va commencer par « j'attends de toi que » ou « je voudrais que » ou bien « est-ce que tu peux faire telle ou telle chose ». Donc, on ne formule pas clairement le besoin, mais cette demande, elle oblige à dire clairement ce qu'on attend de l'autre. Je voudrais que tu arrêtes, je voudrais que tu me demandes d'abord avant de prendre mon stylo, j'aimerais que tu me fasses des excuses, etc. Et puis enfin, après cette demande, on conclut son message clair par une demande de feedback pour s'assurer que nous avons été bien compris et que l'autre a bien compris notre demande. Est-ce que tu as compris ? Et ça permet de redonner la parole à l'autre et de solliciter une sorte d'engagement. Donc voilà pour le protocole de base du message clair, donc avec une première phase qui est l'idée d'annoncer qu'on va faire un message clair, une deuxième phase d'exposé où on expose ce qu'il s'est passé, une troisième phase où on exprime ce qu'on a ressenti, et enfin une dernière phase de demande où l'idée est de réparer ou de faire une demande claire à l'autre. Et enfin, on conclut par « est-ce que tu m'as bien compris ?» Donc ce que je vous disais, c'est que ce protocole, en fait, il permet de poser un cadre et d'accompagner tout ça, mais en même temps, ce n'est pas magique ni facile, parce que ça va impliquer une certaine gestion émotionnelle, ça va impliquer de la maîtrise de soi et de l'inhibition de la part de celui qui écoute, s'empêcher de couper la parole, écouter ce que l'autre me dit, être prêt à entendre quelque chose qui pourrait sonner comme un reproche ou ne pas me plaire ou avec lequel je ne serais pas forcément d'accord. Et ça va aussi nécessiter d'entrer en empathie avec l'autre pour comprendre ce que vit l'autre et ce qu'il est en train de m'expliquer. Et puis, ça va nécessiter aussi de pouvoir ensuite s'efforcer de modifier son attitude suite à la demande de son camarade. En tout cas, de pouvoir en tenir compte. Et en ce qui concerne la personne qui émet le message, ça nécessitera chez elle de la conscience de soi pour ressentir et identifier les émotions désagréables qui peuvent indiquer la nécessité de faire un message clair. Ça va aussi nécessiter de pouvoir s'affirmer, un peu d'affirmation de soi pour oser faire le message, pour oser dire j'ai envie de te faire un message clair, j'ai besoin de te faire un message clair. Et puis il va falloir pouvoir verbaliser, mettre des mots sur les faits, sur ce qui s'est passé, sur ses sentiments, pouvoir formuler une demande. Et pour certains élèves, ça nécessitera un étayage au début, en tout cas d'être accompagné. Et puis enfin, il y a aussi le fait qu'une demande, parce que c'est une demande, c'est quelque chose qui va parfois être négociable. Parfois, la demande qu'on va faire à l'autre, j'ai besoin que tu fasses ceci ou j'aimerais que tu fasses cela, ça peut déboucher sur un refus ou une négociation. Donc il faut être capable aussi de gérer ça, et donc de pouvoir basculer en posture d'écoute ou d'empathie pour l'autre, pour pouvoir continuer cette négociation, parce que dans certains cas, on fait un message clair à l'autre, et l'autre n'a pas vécu la situation de la même façon, et donc aura besoin lui aussi en retour de faire un message clair, ou de dire, je ne suis pas tout à fait d'accord pour m'excuser, parce que tel est truc, j'aimerais te dire telle et telle chose, etc. Et en fait, une demande, c'est négociable, parce que... un message clair, c'est pas une nouvelle façon de donner des ordres aux autres. C'est vraiment une demande qui doit être précise, limitée dans le temps, réalisable. Parfois, dans les débuts de mise en œuvre du message clair, il y a des élèves qui peuvent faire des demandes qui sont pas entendables ou pas forcément réalisables. Donc tout ça, ça va être l'objet d'un apprentissage petit à petit. Les premiers messages clairs, ils nécessiteront d'être débriefés, d'être réajustés. Parfois, il faudra aussi accompagner la gestion émotionnelle liée à un refus ou à une situation qui n'est pas réglable par un message clair. Mais vraiment, dans l'ensemble, le message clair, c'est souvent un beau point de départ qui permet de désamorcer de nombreuses petites situations en réinstallant de la communication. Les élèves découvrent parfois par l'intermédiaire du message clair qu'ils peuvent dire non, qu'ils peuvent dire stop sans s'énerver, sans déclencher les foudres de la personne qui est en face. Ils apprennent aussi à ne pas être d'accord et à ce que ça ne soit pas forcément un énorme problème. Ils apprennent en fait qu'ils peuvent trouver des solutions, qu'ils peuvent discuter des choses et qu'ensuite on peut continuer de travailler ensemble dans de bonnes conditions. Pour les mettre en place en classe, il sera utile de pouvoir prendre un temps pour introduire et enseigner la démarche du message clair, dire aux élèves pourquoi on propose cela, ce que ça va leur apprendre à faire, détailler les compétences communicationnelles qu'ils vont mettre en œuvre à ce moment-là. Et puis ensuite, on pourra aussi leur dire que les désaccords sont normaux, qu'il peut y avoir des conflits et que le message clair est un outil justement pour apprendre à gérer certaines situations avant qu'elles ne deviennent trop importantes. Donc pour ça, vous pourrez partir d'études de cas, apporter des situations et voir quel est le problème, comment on pourrait se sortir de certaines situations ou même d'utiliser la littérature pour évoquer les conflits et faire émerger avec les élèves que souvent, ce qu'on se dit ou la façon dont on le dit, c'est ça qui va déclencher les conflits. Que c'est pas le fait de pas être d'accord qui est un problème, c'est comment on gère ça. Et souvent, de se dire, si je lui dis ça ou si je lui dis stop ou si je lui dis autrement, peut-être que je peux éviter que ça continue ou que l'autre se mette en colère, etc. Et puis ensuite, ce que vous pourrez faire, c'est faire découvrir le protocole du message clair à l'aide de vidéos et reconstituer les différentes étapes avec les élèves, ensuite créer un affichage et chercher ensemble des situations dans lesquelles ils pourraient s'en servir, à quel moment on pourrait avoir besoin de faire un message clair. Et ensuite, il sera important d'établir ensemble le cadre de mise en œuvre des messages clairs. C'est important vraiment d'en définir les modalités selon les règles de la classe, mais selon aussi votre cadre à vous et ce que vous pouvez supporter. Parce que sinon, vous risquez d'être petit à petit agacé par les messages clairs si jamais ils interviennent à des moments qui vous dérangent. Et si vous êtes agacé, c'est une pratique qui ne durera pas dans votre classe parce que vous finirez par court-circuiter les messages clairs ou par râler quand ils interviennent. Et donc, par exemple, il sera important de déterminer le lieu du message clair. Est-ce qu'il y a des moments où ils ne sont pas possibles et ils doivent être compatibles avec votre cadre à vous, votre cadre d'adulte, avec ce que vous vous sentez capable de gérer, de supporter, d'accompagner aussi. Par exemple, dans ma classe, les messages clairs, ils pouvaient être faits n'importe quand, sauf en plein milieu d'une consigne ou d'une phase de mise en commun. Dans ces cas-là, il m'arrivait de demander à ce qu'on puisse les différer. Mais les déplacements ne me dérangeaient pas dans mon fonctionnement de classe et les élèves n'étaient pas toujours obligés de me demander avant de faire un message clair. Quand on travaillait en atelier, par exemple, ils étaient assez autonomes. Je voyais qu'ils allaient à l'endroit qu'on avait désigné pour faire les messages clairs à l'écart du groupe et ce n'était pas un souci. Mais par contre, par exemple, la semaine dernière, lors d'une formation, il y a une enseignante qui me confiait que pour elle, les déplacements intempestifs dans sa classe, c'était vraiment très difficile à supporter et qu'elle n'arrivait pas à laisser les élèves se déplacer sans demander, etc. C'était son cadre à elle. Et donc, si elle devait mettre en place des messages clairs, il faudrait qu'elle trouve une manière de les mettre en place qui lui convienne, qui convienne à ce qu'elle peut tolérer. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que comme toute nouvelle pratique, le cadre, il est nécessaire à expliciter, à poser et à accompagner. Évidemment, il y a des petits malins qui se sont mis dans ma classe à faire des messages clairs toutes les 3 minutes pour éviter de se mettre au travail ou pour tout un tas de raisons qui n'étaient pas appropriées. Et donc ça, il a fallu le réguler, il a fallu déjà montrer que je m'en rendais compte et revenir sur ça, voir quand est-ce que c'est approprié de faire un message clair ou pas. Et puis il y a aussi le cas de certains élèves qui sont invités toute la journée à recevoir des messages clairs parce qu'ils dérangent, parce que plusieurs élèves différents se plaignent de leur attitude. Et donc ça aussi, c'est un indicateur, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui veulent faire des messages clairs au même élève, qui mérite d'en discuter avec cet élève, de voir ce qui peut être fait autrement, parce que visiblement, recevoir des messages clairs ne sont pas efficaces si les choses perdurent et recommencent tout au long de la journée. Donc tout ça, si je vous dis tout ça, c'est que c'est normal, en fait, c'est à prendre en compte pour réguler. C'est normal qu'il y ait des choses à réajuster quand on met en place une nouvelle pratique et qu'il ne faut pas se décourager ou s'en agacer. Ça fait partie du processus, en fait. Et c'est important de prévoir un temps pour pouvoir faire le point avec les élèves sur le fonctionnement de ces messages clairs, de pouvoir parler des difficultés et obstacles rencontrés, de rappeler la démarche régulièrement et le protocole, de lever certains obstacles, de mesurer aussi les progrès et de voir quand est-ce que ça a bien fonctionné, de pouvoir faire le point, débriefer assez régulièrement. Je disais tout à l'heure que le message clair n'est pas une recette magique et un des points de vigilance aussi pour l'enseignant, c'est de ne pas se décharger totalement des médiations nécessaires, de ne pas penser que tout peut se résoudre par le message clair. C'est une étape, c'est un outil, mais il y a des situations dans lesquelles ça ne va pas pouvoir être mis en place. Par exemple, en cas de débordement émotionnel, les élèves ne sont ni en mesure de faire un message clair, ni en mesure de recevoir un message clair. Et dans ces situations-là, inutile d'évoquer le message clair, de dire alors est-ce que tu as fait un message clair ou fais-lui un message clair. C'est pas ce dont l'élève a besoin à ce moment-là et ce sera complètement contre-productif. Parfois, le conflit, il est aussi trop avancé pour faire un message clair qui se veut bref et protocolaire. Et dans ces situations, on aura plutôt besoin de vraiment prendre le temps d'écouter ce qu'il se passe émotionnellement pour chacun des protagonistes du conflit, mettre des mots sur les ressentis, les besoins Et souvent, il faudra une tierce personne, un médiateur, l'enseignant, pour traduire tout ça, parce que, notamment quand on est dans une situation de débordement émotionnel. Donc, le message clair, vraiment, il se caractérise par son aspect bref, facile à mettre en œuvre, mais il n'est pas forcément passe-partout. Il y a, par contre, les principes sur lesquels il s'appuie sont plus passe-partout, c'est-à-dire l'écoute, l'expression des sentiments, l'expression des besoins, le fait de faire une demande, de s'assurer qu'on a été bien compris. Tout ça, c'est des choses qui pourront être réutilisées dans de nombreuses situations, mais avec une temporalité un peu différente et parfois avec la nécessité de faire intervenir une autre personne. Et notre rôle d'adulte, vraiment, c'est d'accompagner sa mise en œuvre, de poser les conditions et le cadre pour que ce soit réalisable, que les élèves soient en sécurité aussi pour pouvoir le faire, essayer de le faire. Savoir se mettre en retrait sans disparaître complètement ou sans disparaître trop tôt. Donc accompagner la mise en œuvre. Et puis, on pourra aussi parfois encourager la pratique. Par exemple, dire « Est-ce que tu as pensé à faire un message clair ?» Parfois, ça va être plutôt « Est-ce que tu veux que je t'aide à formuler un message clair ?» Donc, vraiment, il y a cette idée d'accompagner la mise en œuvre, d'organiser régulièrement des temps de retour, de débrief, de régulation, parce que c'est important. Et puis, ça va nécessiter chez nous à la fois du lâcher prise pour pouvoir accepter de ne pas tout gérer et de ne pas être en ingérence dans tous les conflits, de laisser aussi l'espace aux élèves pour pouvoir gérer ces situations-là et en même temps de la présence et de la disponibilité pour encadrer ce dispositif, pour que s'assurer que ça se passe bien. Ça va passer par exemple par des moments où quand des élèves se sont fait un message clair et qu'ils reviennent, on a quand même un œil pour voir si ça s'est bien passé. On peut leur demander « Est-ce que vous avez réussi à trouver une solution grâce au message clair ?» On ne se détache pas complètement de tout ça tant qu'on n'observe pas que les élèves sont vraiment autonomes pour le faire. Donc évidemment, cette pratique, elle va aussi prendre encore plus de sens et gagner en efficacité dans le cadre d'un travail d'équipe, quand toute l'équipe peut s'en emparer. Mais il n'est pas impossible de l'impulser à l'échelle de sa propre classe. C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne aussi. Et puis, en mettant en place les messages clairs, j'avais observé chez les élèves vraiment une capacité à regarder les situations autrement, notamment chez des élèves qui auparavant auraient pu s'emporter rapidement, faute de savoir comment communiquer. Je me souviens aussi avoir entendu certains élèves dire à d'autres « t'as qu'à lui faire un message clair », ce qui montrait que ils s'étaient vraiment emparés de la méthode. Et puis, à mon échelle, ça avait largement diminué le nombre de mes interventions. Assez rapidement, j'ai aussi observé qu'au-delà des messages clairs, les élèves arrivaient à demander un temps pour régler un litige sans moi. Je leur proposais toujours, je leur demandais tout le temps s'ils étaient capables, s'ils s'en sentaient capables ou non, s'ils avaient besoin de mon aide ou pas. Mais le fait de laisser cet espace-là, ça leur permettait aussi petit à petit de réussir à dire « non, on a juste besoin de discuter, on y discute ». Et sans forcément être dans le protocole du message clair. Voilà, et puis je vous laisserai pas partir de cet épisode sans repréciser, reclarifier vraiment qu'il ne s'agit pas d'éviter les conflits, mais d'apprendre à les dépasser, à les résoudre en maintenant le dialogue le plus longtemps possible. Et puis on pourrait, nous aussi, y avoir recours. Il me semblerait d'ailleurs assez intéressant de pouvoir tester nous-mêmes cette pratique du message clair. On peut tout à fait faire des messages clairs à nos élèves, mais on peut aussi très bien les tester entre adultes, essayer avec nos proches, avec nos collègues. Bien évidemment, il faut que le protocole soit expliqué et que tout le monde y adhère. On ne va pas se mettre à faire un message clair à des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais on peut essayer en famille, par exemple, et vous verrez que c'est à la fois hyper aidant. Ça permet de s'autoriser à dire certaines choses et de les dire calmement et de poser les choses. Et qu'en même temps, ce n'est pas si facile que cela non plus, d'oser dire certaines choses ou de prendre le temps de dire certaines choses très calmement. Voilà, je m'arrête ici pour cet épisode sur les messages clairs. Je serais vraiment très friande de vos retours d'expérience ou compléments d'informations. Si vous avez des choses à ajouter à mon propos, n'hésitez pas. Et puis vous trouverez, si vous avez envie d'essayer ou d'encore mieux comprendre ce dont il s'agit, je pense que vous trouverez assez facilement des vidéos de mise en œuvre en cherchant sur le web.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.